Voilà, donc aujourd'hui, l'invité du jeudi sera donc Vincent Bonnevaux, alors qu'on connaît sur Radio Craponne parce qu'on l'a rencontré, il est venu nous parler de ses livres plusieurs fois. Eh bien, on le retrouve après quelques temps pour nous parler de son dernier roman qui s'appelle « Meurtre à Amber ». On va le retrouver dans quelques instants. Voilà, donc on va retrouver tout de suite Vincent Bonnevaux. Vincent, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, donc, vous écrivez beaucoup sur l'histoire, hein, dans la région, avec des intrigues historiques, on peut le dire, hein, même si c'est un peu, c'est peut-être un peu fort de dire, c'est un peu sous, comme un thriller, mais historique, on peut l'appeler comme ça ou non ?
On peut l'appeler comme ça, thriller, je pense.
Non, pas trop. Non, c'est pour ça que je le dis.
Mais ça
correspond pas à ce que vous faites.
C'est du roman historique,
voilà.
Mais qui peut se lire comme du polar médiéval.
Voilà, d'accord.
Et c'est vrai que en fait, ces deux genres littéraires sont un
prétexte pour moi. C'est la raison première qui m'a poussé à écrire cette série d'ouvrages avec comme personnage principal Guillaume de Moncelat. C'est avant tout pour partager deux passions que je peux avoir, entre autres, avec mes lecteurs. C'est l'histoire, donc l'histoire et entre autres l'histoire du Moyen-Âge, et puis nos vieilles provinces, que ce soit Forêt, Auvergne, Velay et puis Lyonnais.
D'accord. Alors, donc c'est votre dans le même thème, c'est votre cinquième roman. Hein.
Alors, dans cette collection-là, aux éditions des Monts d'Auvergne, ouais. C'est le cinquième roman, la cinquième enquête de Guillaume de Moncelat. Guillaume de Moncelat est mon personnage principal qui amène le lecteur, en fait, à découvrir ce qu'étaient nos vieilles provinces au milieu du XIIe siècle.
Ok. Les quatre premiers, on peut rappeler les titres.
Alors, le premier est paru en 2009, c'est Le Retour du Croisé. L'intrigue se situait dans le pays du Val d'Anse, autour des communes de Vivrolles, La Chaulme, Églisolles, Saillant. Le deuxième, paru deux ans après, c'est L'Étrange Prédicateur. L'intrigue se situait aussi sur le pays du Val d'Anse. Et sur à peu près le même type de territoire. Le troisième, c'est Un lourd secret. Donc là, mon personnage principal est amené à enquêter sur les monts du Lyonnais et la ville de Lyon au XIIe siècle. C'était intéressant, ça m'a permis de montrer ce qu'était cette ville lyonnaise en plein milieu de la féodalité. Donc c'était une ville du Saint-Empire romain germanique. Et puis après, deux ans après, en 2014, j'ai fait Vol de reliques, où le personnage principal, donc Guillaume de Moncelat, est amené à se déplacer autant dans la plaine du Forêt que sur des sites que j'aime beaucoup, comme par exemple Montarcher, Saint-Marcelin-en-Forêt, et puis il repart sur Lyon. Et là, celui-ci, paru fin 2021, Meurtre à Amber. Donc, comme son titre l'indique, l'intrigue se situe principalement sur le pays d'Amber.
Oui, bien sûr. Alors là, vous allez faire rentrer en jeu pas mal, beaucoup de seigneurs, hein, puisqu'on est, on est dans quel siècle, là ?
Alors, le XIIe siècle, pour l'une des raisons aussi, je ne l'ai pas dit, pour laquelle j'ai voulu prendre comme toile de fond ce XIIe siècle, C'est aussi pour partager donc cette passion que j'ai sur le Moyen Âge, mais aller un peu contre la facilité qui est prise depuis déjà pas mal de temps, de faire passer le Moyen Âge en fait pour une longue période obscurantiste. Ou c'est-à-dire le Moyen Âge, c'est à peu près 1000 ans d'histoire. Pendant ces 1000 ans, à écouter certains qui aiment salir cette longue période, le soleil ne s'est pas levé, les hommes n'ont jamais été heureux, et en dehors d'un obscurantisme crasseux, rien ne s'est passé. Alors j'ai pris justement ce 12e siècle, c'est l'âge d'or du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle l'âge féodal, c'est l'âge des cathédrales, c'est l'âge des universités, c'est l'âge des grandes foires, entre autres les foires de Champagne, c'est l'âge de l'essor de la monarchie capétienne. Et c'était pour montrer qu'avec cette toile de fond, finalement, le Moyen-Âge est beaucoup plus complexe, plus intéressant, plus passionnant que parfois ce que l'on peut en penser. Donc voilà, ma toile de fond, c'est ce 12e siècle.
Très bien. Alors là, vous dites que pendant que le comte de Forêt occupe l'ancienne capitale des Gaules, le seigneur Armand de la Roue tente par le biais d'un mariage arrangé d'éviter une guerre entre Guillaume le Vieux de Baffy, alors bien sûr on est en plein dedans là, et le seigneur Agnon de Mémont-Olierre, on est dans le Puy-de-Dôme là.
C'est le Puy-de-Dôme, c'est le pays d'Ambert, c'est la vallée de l'Adore, et vous parliez de famille seigneuriale, de chevaliers. Alors effectivement c'est l'âge d'or aussi de la chevalerie, avec tous des codes qui symbolisent cette chevalerie, que ce soit de l'adoubement, les liens de vassalité. Et les familles que vous avez citées, donc les Laroux, les Mémont-Olierre, les Baffy, étaient les principales familles seigneuriales, aussi bien de la vallée de Lens, la haute vallée de Lens, que de la vallée de l'Adore. Par exemple, je vais prendre les Baffy. Les Baffy avaient une importance capitale. C'est une famille seigneuriale de notre région qui remonte, si on faisait sa généalogie, qui remonte à loin, parce que c'est une famille qui nous rattache au temps carolingien. Donc ça nous fait quand même voyager dans le temps. Et ces Baffy avaient une situation géographique qui était intéressante à l'époque, parce qu'ils contrôlaient l'un des principaux cols qui passait du Forêt à l'Auvergne, c'est-à-dire le col de Chemintran, en possédant deux formidables forteresses, celle de Vivrolles côté Vallée d'Anse, celle de Baffy, qui a complètement disparu aujourd'hui, côté Vallée de l'Adore. Et puis ils possédaient la ville d'Ambert. Donc je vais beaucoup parler des Baffy.
Donc les noms qui sont cités ont existé.
Alors tous les noms que j'utilise pour ma trame, c'est des noms historiques, sauf que comme c'est du roman, et c'est là où j'insiste, c'est pas un livre d'histoire, ça se lit comme un roman, c'est l'intérêt du genre littéraire roman historique, ça permet d'orienter les lecteurs qui se trouvent être intéressés par l'époque qu'ils vont découvrir dans leur roman historique, de pourquoi pas aller piocher des livres un peu plus poussés, des essais, des biographies. Et donc tous les noms que je cite sont des personnages, sont des familles historiques, que c'est la même chose pour les seigneuries, les châtellenies, les prieurés, les abbayes. Mais par contre, les généalogies étant incertaines sur de nombreuses familles de nos vieilles provinces, je me permets d'intégrer dans ces généalogies des personnages de fiction, comme c'est le cas pour mon Guillaume de Montcelard. D'accord. Les Montcelard, c'est une famille historique du pays du Val d'Anse. Il reste encore un pan du donjon des Montcelard, mais mon Guillaume de Montcelard, lui, est un personnage de fiction.
Ok, alors justement, puisque lui il va être engagé dans une mission, puis ça s'appelle Meurtre à Ambert. Pourquoi Meurtre à Ambert ? Parce que on va voir que Guillaume de Montcelard est Ponce de Bosfranchet, hein, donc c'est toujours dans la région lui aussi.
Alors Bosfranchet, c'est une petite seigneurie qui se situait au nord de Montcelard, alors Montcelard c'est sur la commune, ça doit être sur la commune de Saillant, et ou celle d'Eglisolles, entre les deux. Et Bosfranchet est sur le bord du Val d'Anse aussi, pas très loin d'un très beau site, le site de Montpeloux.
Ah bah oui, qui est magnifique et qui
est
très...
Beaufranchet est un peu en contrebas en partant. On voit encore d'ailleurs les ruines de la maison forte des Beaufranchet.
Ah ben Montpellou, on connaît, hein, puisque toutes les années, il y a un super festival
oui.
dans un endroit improbable. Hein. C'est vrai que...
Et ben dans un endroit improbable qui était une forteresse féodale. À cette ouais. époque-là, c'était la famille des Montpellou était fortement liée au Larroux. Donc le seigneur de mes deux personnages principaux, parce qu'on est dans les liens vassaliques, c'est-à-dire des liens qui unissaient les petits seigneurs à des seigneurs plus importants. Et donc ce qui est intéressant avec ces noms, c'est des noms qui, comme peut-être pour vous, c'est des noms qui chantent à mes oreilles. Montpellou, Moncelard, ouais. Beaufranchet, Larroux, les Baffy, Vivrolles. Et finalement, donc, à la suite de ces personnages, si finalement une invitation aussi à aller se balader dans nos chemins.
Oui, qui sont magnifiques. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore, on aura l'occasion de reparler du Festival du Montpellou, puisqu'on en parle toutes les années, nous. Et cette scène sur le lac du volcan, c'est assez exceptionnel. Alors, bon, eux, ils vont tous les deux, puisqu'on disait, il y a une série de meurtres dans la cité d'Ambert, qui est plutôt paisible. Eh bien, ils vont devoir résoudre ces différents meurtres. Donc, c'est toute la trame du livre, en fait. Hein. On va voir, en parcourant le livre, comment ils vont s'y prendre pour justement découvrir qui sont les meurtriers, pourquoi ces meurtres.
L'intrigue, comme son titre l'indique, effectivement, c'est une série de meurtres qui se situe sur le pays d'Ambert. Je ne vais pas trop parler de l'intrigue, mais là, dans ce roman, en fait, on rentre tout de suite dans l'intrigue, dès le premier chapitre, et on se rend compte que Guillaume de Moncelard et Ponce de Beaufranchet, en fait, avaient pour principale mission d'escorter un conseiller de leur seigneur, Armand de Larroux, mais non pas pour enquêter sur des meurtres, mais pour escorter donc ce personnage qui était chargé de négocier un mariage. Parce qu'à cette époque féodale, le mariage était tout aussi important qu'un conflit, qu'une guerre. Et même, je dirais, peut-être plus important, parce qu'un mariage pouvait éviter un conflit. Donc d'où l'importance de bien réussir les alliances que l'on formait. De ces alliances, c'était deux lignées de seigneurs qui se rencontraient. Et quand ces deux lignées se rencontraient, on pouvait justement construire un avenir serein. Et c'est un peu malgré eux que mes deux personnages principaux, donc Ponce de Beaufranchet, Guillaume de Moncelard, vont se retrouver mêlés à cette série de meurtres.
Oui, et puis on sait que les mariages aussi, ben, ça amenait des terres, hein, puisque c'était pas anodin. Hein. Des fois, on faisait des mariages pour agrandir le périmètre que possédaient les seigneurs, puis comme on le disait, donc pour éviter des guerres, oui, parce qu'à l'époque, on guerroyait beaucoup. Hein.
Alors, on guerroyait beaucoup, mais à l'inverse de ce que l'on croit, les guerres de l'époque féodale avaient rarement le caractère catastrophique qu'elles ont pu prendre à nos époques contemporaines.
D'accord.
Parce que il faut voir deux seigneurs locaux qui se faisaient la guerre, déplacer quoi ? 100 hommes, 200 hommes derrière chacun de ces seigneurs. Donc ça faisait des conflits dans un champ, sur un pré, qui opposait ces deux armées. Le plus souvent, c'était des conflits qui se passaient sur la période estivale, qui se résumaient à une période de siège d'une forteresse, qui était le plus souvent levée avant même que le siège n'arrive à aboutissement. Donc on était très loin, c'était rare en fait, des batailles, des conflits qui opposaient des armées de milliers d'hommes. C'était relativement rare. Le plus souvent, on pouvait même presque parler d'escarmouches. Et pour éviter ces petits conflits entre seigneurs, effectivement, les mariages, parce que ces seigneurs-là, s'ils pouvaient se passer quand même en dehors des belliqueux, il y a toujours des exceptions. À chaque époque, il y a toujours eu des exceptions qui font des fois la règle. Mais en règle générale, ces seigneurs n'étaient ni des débiles, ni des va-t-en-guerre pour juste partir en guerre, même s'ils appréciaient guerroyer, parce qu'ils s'entraînaient. Leur principale mission, c'était justement l'apprentissage de la guerre. Mais qui disait guerre voulait dire aussi possibilité de ruine de leur seigneurie. donc c'est-à-dire de leur culture, du travail de leurs paysans, ceux qui les faisaient vivre et ceux qui les enrichissaient. Ils avaient aussi un devoir avant d'avoir des droits. Cette chevalerie et ces seigneurs étaient empêtrés dans une série de devoirs, et entre autres les devoirs, c'était assurer la sécurité de leur domaine. Donc s'ils pouvaient quand même éviter, si ce n'est encore exception, s'ils pouvaient éviter de mettre à mal leur seigneurie, généralement ils le faisaient.
Voilà, donc Meurtre à Amber aujourd'hui, notre invité du jeudi, Vincent Bonnevaux, aux éditions des Monts d'Auvergne, hein, c'est ça ?
Édition des Monts d'Auvergne.
Oui, je me trompe.
Oui,
pas,
c'est ouais. Ça.
Ouais. Alors, on parle. Il faudra lire le livre, hein, bien sûr, puisque on cherche des meurtriers. Il y a plusieurs meurtres. Il y a peut-être qu'un meurtrier, on ne sait pas. Hein. Il y a plusieurs meurtres, c'est tout ce qu'on sait. Et c'est une série, surtout, donc ce qui enclin un petit peu à aller. Voir ce qui se passe, c'est que, bon, bah, apparemment, Amber, il n'y avait pas de gros soucis de ce côté-là. Et puis d'un coup, il y a cette série de meurtres qui arrive.
Le pays d'Amber était relativement paisible en ce milieu du XIIe siècle, même si j'ai pris le XIIe siècle comme toile de fond, bon, comme je l'ai dit, c'est parce que je suis passionné d'histoire et passionné du Moyen-Âge, parce que aussi c'est l'âge d'or du Moyen-Âge. Mais dans ce milieu du XIIe siècle, je voulais parler donc de l'Auvergne, du Forez, et il se trouve que vers les années 1160, c'est la décennie sur laquelle se déroulent mes intrigues, il se trouve que aussi bien en Auvergne que dans le Forez, il y a des événements qui me permettent d'avoir une toile de fond qui soit riche en action. C'est-à-dire que du côté forésien, on a le comte de Forez Guy II, qui est en conflit ouvert avec l'archevêque de Lyon, parce qu'il faut savoir que jusqu'au milieu du XIIe siècle, le comte de Forez était aussi comte du Lyonnais, sauf que dans le Forez, il n'y avait pas de dualité, puisqu'il était seul seigneur sur le domaine forésien, mais dans le comté lyonnais, il y avait l'archevêque de Lyon. Donc on a eu un conflit qui a duré une vingtaine d'années, et ça me permet, quand mon intrigue se situe sur le Forez, d'avoir en toile de fond justement cette querelle entre deux grands seigneurs, un religieux, un laïc. Et du côté auvergnat, on a aussi notre famille comtale, donc des comtes d'Auvergne, qui sont déchirés entre un oncle et un neveu, après le retour de l'un des deux, retour de croisade. Donc cette famille comtale est en pleine division, connaît des tensions et un conflit qui dure. Et ce conflit fait entrer en scène des personnages plus importants, comme le roi d'Angleterre, qui à cette époque-là était duc d'Aquitaine, et le roi de France, qui était le seigneur direct des comtes d'Auvergne, mais avait très peu d'emprise sur le massif central. Du coup, en faisant un roman à la portée de tous, en faisant un roman donc pour le grand public, je me permets à chaque fois justement de faire partager cette passion que j'ai pour l'histoire dans mes bouquins. Et finalement, les lecteurs lisent un roman et, d'une façon la plus simple qui soit, découvrent une partie de notre histoire.
Très bien, on va faire une petite pause musicale pour laisser le temps de se reprendre. Alors, j'ai trouvé une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle « Les Seigneurs ».
Regardez bien la gueule que j'ai. Je n'ai pas toujours eu la même. Quand on ressemble à ses poèmes, on finit souvent sur le quai. Je navigue sur des canaux où ma vieille péniche s'use. Elle a vu tellement d'écluses qu'elle n'a même plus l'air d'un bateau. On a beau jouer les seigneurs, faire voir ses biceps et ses dents, un jour on annonce la couleur. Ce n'est qu'une question de temps. Je laisse un petit peu partout traîner des sourires à la pelle pour que mes journées soient plus belles. D'ailleurs, tout le monde s'en fout. Ma plus grande erreur au départ fut d'avoir quitté mon village. J'avais pris ça pour du courage. J'ai dû me tromper quelque part. Quand on se prend pour un seigneur, il faut être armé jusqu'aux dents. Ce qui ne tient pas, c'est le cœur. Ce n'est qu'une question de temps. Regardez bien la gueule que j'ai. C'est le grand guignol en partance. C'est du désespoir en vacances. C'est impossible à corriger. Si j'en rigole, c'est tant mieux. S'il y a des gens qui me regardent, pour les planter jusqu'à la garde, je veux devenir très très vieux. Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps. Regardez bien la gueule que j'ai.
Voilà, donc les seigneurs, hein, puisqu'on parle de seigneurs aujourd'hui avec Vincent Bonnevaux, son livre c'est Meurtre à Amber, hein, donc aux éditions des Monts d'Auvergne. On retrouve son personnage qui suit depuis cinq romans, hein, Guillaume de Moncelaire. Donc là on lui adjoint, il a un adjoint, hein, Pont de Bosfranchet. C'est la première fois qu'il est avec lui, là, dans les romans.
Alors non, non, ces deux personnages, en fait, Ponce de Bosfranchet intervient dès le premier roman. Mon personnage principal, donc, c'est Guillaume de Moncelard, petit seigneur du pays du Val d'Anse, de la haute vallée de l'Anse. Et Ponce de Bosfranchet, en fait, on le trouve dès le premier roman. On a affaire à deux croisés, Guillaume de Moncelard et Ponce de Bosfranchet. C'est deux seigneurs qui sont partis à la croisade à la suite du roi de France Louis VII le Jeune. C'est la deuxième croisade. Et Ponce de Bosfranchet, donc, est un seigneur qui va connaître des difficultés, qui ne va pas revenir tout de suite à l'inverse de Guillaume de Moncelard, qui ne va pas revenir tout de suite de Terre Sainte. Et par contre, c'est l'un des personnages principaux dès le premier roman. Et il accompagne généralement ces deux hommes qui sont fortement liés par une amitié, ces deux hommes qui ont combattu ensemble, les liens bâtis sur le champ de bataille sont forts à cette époque-là. On a affaire à des communautés de chevaliers. Et donc ces deux hommes, en fait, se suivent généralement là où Guillaume de Moncelard va. Généralement, on voit Ponce de Bosfranchet derrière.
Très bien. Donc, bien sûr, on ne va pas vous expliquer les meurtres, on va vous expliquer, il faut lire le livre. Ce qu'on peut peut-être dire, ces meurtres ont une cause, est-ce que c'est une cause historique ou c'est une cause tout à fait anodine ? Elle ne peut pas être anodine, c'est une cause.
Non, alors elles n'ont pas, c'est là où on rentre dans la fiction. Elles n'ont pas un aspect historique. Par contre, je me sers du passage d'un personnage historique dans le pays d'Amber. Je fais passer ce personnage à Amber. L'un des proches de ce personnage est justement, comment dire, est mêlé à cette série de meurtres. Mais après. Non, à chaque fois, ce que j'essaye par contre de faire, c'est que mes intrigues aient un sens historique. C'est qu'elles soient toujours liées à une possibilité historique. C'est surtout ça. Mais sinon, elles n'ont pas de réalité historique. Non.
D'accord. Alors, puisqu'on parlait de château et habitant à Usson, vous n'êtes pas très loin de Luriec et de Valinches, où il y a un magnifique château à Valinches, je sais pas si vous connaissez. Et justement, qui vient d'être vendu et qui est en train d'être restauré de belle manière.
Oui, qui est superbe.
Ouais. Donc voilà, comme quoi il y a des gens. Alors bon, pour la petite histoire, moi je suis né à Luriec, donc je connais un peu l'histoire du château, puisque mon père me l'avait expliqué. D'accord. Alors la famille, je ne sais plus le nom, je le savais, mais je ne m'en rappelle plus. Il faut savoir que cette famille a tenu à conserver son château, mais ils n'avaient plus d'argent. Et pendant la guerre, les nobles, elles s'étaient transformées en paysannes. Elles vendaient des fromages pour survivre. Hein. C'était quand même...
Oui.
Et après, bon, c'est vrai, comme on disait, c'est très difficile d'entretenir un château. Et là, je n'ai pas encore été le voir, mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'il est en train de faire quelque chose de superbe. Et ça
oui, il le réhabilite.
Totalement.
Oui, complètement.
Donc, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça.
Oui.
Qui ont un peu d'argent et qui mettent là-dedans. Quoi,
oui, certains y consacrent beaucoup de fortune, enfin beaucoup d'argent, énormément de temps, d'énergie. Oui, c'est bien. Moi, je préfère ça que de voir des investisseurs parfois malhonnêtes qui investissent pour piller le bien et puis le délaisser ou le revendre.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ces familles anciennes qui ont marqué l'histoire de France, parce qu'il faut voir ces familles seigneuriales, effectivement, elles avaient des privilèges, mais ces privilèges, jusqu'à une époque quasi jusqu'au XVIIIe siècle, souvent payaient le prix du sang. C'est que elles avaient, comme je le disais, des devoirs, et le principal devoir était justement de défendre déjà leur domaine, de répondre à la demande de leur seigneur en cas de danger. Et donc, généralement, oui, elle payait souvent le prix du sang. Le privilège était payé par le sang.
Oui, parce que, bon, on oublie... Alors, c'est vrai qu'on va pas faire... on va pas, dire, mais on prend toujours... on dit, les seigneurs, ici. Mais il y avait quand même une contrepartie. Hein, ils étaient... il fallait qu'ils nourrissent leurs vassaux, hein, qu'ils s'en occupent, même qu'ils veillent sur leur santé. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile, quand même, parce que...
Non, c'est une société qui est très éloignée de nos préoccupations modernes. C'est une société qui était pyramidale, avec en haut le roi, basé sur trois ordres, donc le clergé, la noblesse, et puis le tiers-état. La majorité de la population faisait partie du tiers-état. Effectivement, clergé et noblesse possédaient des privilèges, des richesses, mais c'était un équilibre. Le clergé, il faut voir qu'on était dans une société qui était profondément pieuse. Le sacré, le spirituel était omniprésent. D'ailleurs, il suffit de voir l'énergie qui a été consacrée pour bâtir toutes les églises qui parsèment nos territoires, à commencer par nos cathédrales. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'esprit de nos sociétés mercantiles et consuméristes de bâtir des cathédrales pour le seul plaisir de lever les yeux au ciel et pour assurer le salut des hommes. Aujourd'hui, ça, c'est des notions qui n'auraient plus de sens pour la majorité de nos contemporains. Donc ces trois ordres étaient fortement liés avec des droits et des devoirs et généralement remplissaient les missions qui étaient les leurs, que ce soit le clergé, c'est-à-dire assurer le salut du reste de la population, prier pour cette population, mettre aussi en valeur les territoires qu'ils ont reçus. Il suffit de penser au travail gigantesque qui a été fait par les moines bénédictins, les moines cisterciens, par rapport à leurs habits, prieurés, granges, le nombre de marécages, de terrains insalubres qu'ils ont remis en valeur. Et puis, il y avait un maillage sur tout le territoire, je vais même dire sur toute l'Europe, puisqu'on parle d'un Moyen-Âge. Ce Moyen-Âge a été pas quasiment le même, mais a été quasiment similaire sur tout le continent européen. On parle vraiment d'une civilisation. La civilisation européenne a vécu des mêmes périodes. Et donc, il y avait un maillage de seigneuries qui était imbriqué dans des liens vassaliques, des liens de serment. Et donc, ça créait cette société qui, finalement, est très éloignée de ce que l'on connaît et de ce que l'on nomme aujourd'hui comme la centralisation. Les pouvoirs étaient éclatés. Il faut voir que parfois, le roi de France pouvait avoir moins de fortune, moins de pouvoir que l'un de ses vassaux. Sauf que, même si ce vassal possédait richesse, donc fortune et puissance, il devait quand même obéissance à ce roi. Ce qui n'empêche pas que parfois, certains des vassaux se rebellaient, mais... ça finissait toujours par une alliance, par un pacte, par un traité, parce que un seigneur vassal renégat en rébellion vis-à-vis de son suzerain pouvait tout perdre. Et puis, s'il se mettait en dehors des lois fondamentales du royaume de France, et puis des lois qui ont été bâties aussi sur une société, comme je disais, sacralisée et spirituellement, enfin très religieuse, s'il se mettait en dehors des lois de Dieu, c'est des hommes qui pouvaient être excommuniés. L'excommunication, ce n'était pas rien lorsque ça s'abattait sur une seigneurie.
Très bien, donc meurtre à Amber avec Vincent Bonnevaux qui était notre invité du jeudi cet après-midi aux éditions des Bons d'Auvergne. Vincent, on a dit pas mal sur ce livre, maintenant il faut le lire hein, bien sûr, pour aller au bout et voir ce qui va se passer. Alors comme je dis traditionnellement à tous ceux qui viennent me voir, est-ce que dans la même veine il y a un livre sous le coude?
Oui, j'en ai toujours un, voire deux. Et là, actuellement, alors je me suis mis un peu, parce que j'étais... Un livre, ça épuise. Ça épuise énormément. Et j'ai repris un livre que j'ai commencé à écrire il y a 15 ans, plus de 15 ans. Donc j'avais tout juste édité mon premier roman. Et c'est un livre, alors je change de sujet, je change de genre littéraire, ça sera un livre un peu de fantasy. C'est-à-dire dans un univers et un pays imaginaire, mais avec un arrière-fond féodal. Donc je travaille dessus, là je me suis un peu mis en retrait, ça fait quelques semaines que j'y travaille plus trop. Et puis après, mon éditeur qui m'avait sollicité pour écrire ce cinquième roman, Meurtre à Amber, enfin cette cinquième enquête de Guillaume de Montcelard, m'a donné envie de, pourquoi pas, peut-être un sixième Guillaume de Montcelard. En fait, j'ai plusieurs projets littéraires. Voilà, j'ai plusieurs projets littéraires qui tournent toujours autour de l'histoire, autour de thèmes qui me sont chers. Ça peut être des fois philosophie, mythologie, la royauté.
Très bien, eh bien on va se quitter avec j'ai trouvé une chanson en ancien français du 12e siècle. Alors là, je ne sais pas comment on prononce, c'est Chevalier Mult Estes Garise. Je ne sais pas si je parle bien le moyenâgeux, mais on va écouter ça, c'est une chanson du Moyen-Âge.
Les mots,
Voilà, donc on termine avec une chanson du Moyen-Âge hein, qu'on a découvert. Eh bien, on va remercier Vincent Bonnevaux d'être venu. Je vous rappelle son livre, Meurtre à Amber, aux éditions des Monts d'Auvergne. Donc vous serez, vous, en dédicace
Alors à la maison de la presse
à Craponne, au plaisir des mots,
au plaisir des mots, voilà, je cherchais le nom. Début juillet, je crois que c'est le samedi 11 juillet.
Oui, ça doit paraître ça.
Il me semble.
Oui, oui, oui.
Ou le 9 juillet, peut-être, samedi 9 juillet.
Ah non, c'est le samedi. Ah ben, je devrais le savoir. Je devrais le savoir. Voilà. C'est mon anniversaire.
Le 9 juillet? Ah bah alors, il me semble. Mais
c'est ça.
Ouais, et si c'est pas celui-là, c'est celui d'avant, le 2. Mais je me rappelle plus trop. C'est début juillet, c'est sûr.
D'accord. Bon, eh bien, merci d'avoir été avec nous. Et puis, bon, on attend le prochain roman.
Allez, ça marche. Merci.
Et merci et au revoir. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.